Reprise des interventions avec Abby Patrix, conteur, l'occasion d'introduire de nouvelles perspectives grâce à des lectures humoristiques. Extrait du livre de Michel Dragon, Drôle de métier. En 2003, de 2003 à 2015, Abby Patrix a co-dirigé la Maison du Conte, animé le Labo, un espace collectif au pluridisciplinaire de recherche, d'improvisation et de transmission. Il accompagne artistiquement des conteurs de France, d'Europe et d'Afrique. Il est membre fondateur du réseau FEST, qui tisse des liens entre les acteurs du conte en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ce réseau ? En deux mots.
Tout à l'heure, j'entendais, on a tous besoin de reconnaissance. Et moi, d'être ici avec vous, j'ai besoin de légitimité. On se demande qu'est-ce qu'un conteur vient faire ici dans un colloque. En tout cas, vous devriez vous poser la question. Et comme vous vous la posez, bien, en fait, ma vraie légitimité, c'est que je suis un ami de la famille. Mon père, Georges Patrix, et ma mère, Margaret Johan Patrix, norvégienne, étaient mariés et étaient amis de Françoise et Michel. Et donc, moi, j'ai connu la famille Ragon comme une famille amie de la mienne. Et c'est intéressant, tout à l'heure, j'entendais la grande année de Michel Ragon, c'est 1953, les publications. Eh bien, c'est l'année de ma naissance. Donc je suis né la grande année historique de l'apparition de Michel Ragon, écrivain. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Je légitimise ma présence. Alors, j'ai malheureusement pas pu être là le jour des funérailles de Michel. Et plus tard, Françoise m'invite en me disant « Viens voir une exposition à Montreuil ». Donc je viens voir, j'étais très touché, j'ai vu aussi reconnu une photo où il y avait mon père et ma mère à côté de Michel et Françoise, et ça a réveillé comme ça beaucoup de souvenirs. Et puis Françoise, toujours à la recherche d'énergie, de matière pour faire de cette œuvre et de Michel, un homme lu, entendu, écouté aujourd'hui, s'approche de moi et sous le couvert d'un peu d'humour, elle me dit « Oh Abby, toi qui es conteur, tu pourrais pas raconter, tu sais, Drôle de métier, le premier livre de Michel, dedans c'est un peu comme des histoires, c'est un peu comme des contes. » Et alors tout de suite, je me dis « Mon Dieu, formidable, quelle manière de rejoindre l'histoire de Michel que de raconter des histoires. » Alors elle me donne le livre, « Drôle de métier », que je ne connaissais pas. Et je le lis et je lui dis « Non, 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 ça, il n'y a pas besoin de raconter, le conteur, c'est Michel. C'est un conteur incroyable. » Et d'ailleurs, on le voit dans tous ses romans, dans tout ce que vous avez cité tout à l'heure, les romans vendéens, que c'est vraiment... un conteur, là c'est un conteur de la Vendée, et donc dans ce livre « Drôle de métier », ce sont des récits racontés avec beaucoup d'humour, son humour a été cité tout à l'heure, et je me disais, mais qu'est-ce qui reliait mon père, excuse-moi François, je vais dire mon père et Michel plus que ma mère, toi, ou etc. Mais en fait, je me rends compte que mon père était aussi originaire d'un milieu populaire, mais d'un milieu ouvrier par son père à lui, et qu'il y avait quelque chose quand ils étaient ensemble. Moi, on m'a toujours dit que j'avais des yeux de chinois, que quand je ris, mes yeux disparaissent complètement. Et Michel et mon père, quand ils étaient ensemble, leurs yeux frisaient. Et c'était une sorte de... c'est l'expression d'un humour. C'est-à-dire, quand on dit au théâtre, quand on dit « il frise », ça veut dire qu'en fait, il a les yeux qui rigolent alors qu'il essaie d'être sérieux sur l'aise du visage. Et Michel frisait. J'ai un souvenir très fort de ça, et mon père pareil. Et quand ils étaient ensemble tous les deux, on se disait « Ouf, il prépare un mauvais coup, il va y avoir de la blague quelque part ». Et pour raconter une anecdote plus personnelle qui me relie aussi à cette notion de conteur, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais conteur. Quand on est conteur dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on fait un retour vers un art populaire, qui est un art de la parole, et... Donc quelque part qui correspond aussi au chemin de Michel, qui est un retour vers son origine à travers la narration des romans vendéens. Et mon père, quand j'étais enfant, faisait ce que les pères font ou les mères font. Lui, il lisait pas des livres, il avait inventé un personnage avec lequel il me racontait la vie en général. Sa vie, mais la vie en général. Et j'adorais ce personnage, et il me l'avait dédié, et le personnage s'appelait le petit Trouduc. Sauf que dans la vie, il y a un jour où on comprend le sens des choses. Moi, j'ai jamais entendu mon père être libertaire comme Michel l'a été, mais il y avait quelque chose de ce goût de la contradiction, de l'humour, du regard sur le monde que je trouve formidable. Et alors, je trouve que dans Drôle de métier, puisque je vais vous lire quelques extraits, il y a beaucoup de ferments, de choses que vous, quand vous analysez, je n'ai entendu que les deux papiers avant moi, mais je reconnaissais des choses partout qu'on trouve dans ces textes, dans ce premier texte de Michel. Alors, avec l'aval de Françoise, puisqu'on on est d'accord, on a choisi des extraits ensemble, je vais vous en lire quelques-uns qui nous semblent de sens. Saute ruisseau. Tout le monde a lu Drôle de métier ? Vous allez voir, même Françoise, qui est quand même spécialiste de l'œuvre, a redécouvert des petits moments comme ça. C'est ça qui est formidable dans la lecture. C'est pour ça qu'il est important de le lire lui. Saute ruisseau. Quel joli nom que celui-là. Est-ce un animal aux longues pattes ou bien une sorte de passereau? Il y a dans ce mot quelque chose d'aérien, sans doute parce qu'il est question de sauter. Car même celui qui ne saute pas bien haut se tient toujours en l'air quelques fractions de seconde. Quelque chose d'aérien et de frais et de campagnard. Les ruisseaux nichent en général à la campagne, comme chacun sait. Pourtant, le saute-ruisseau vit principalement dans les villes. À Nantes, on l'appelle un courantin. Il ne s'agit plus de sauter, mais de courir. Et cette appellation est plus évocatrice de la fonction de cet être étrange voué, en effet, à courir du matin au soir. Quant au caniveau qu'il doit sauter, l'eau qui emplit ceci en hiver n'a qu'un très lointain rapport avec la fraîcheur campagnarde à laquelle nous faisions allusion. Le féminin de Courantin, non, n'est pas Courantine, mais Trottin. Ce féminin est un masculin, constatation troublante. Mais autrefois, Trottin désignait indifféremment les petits domestiques employés à faire des courses de quelque sexe qu'ils fussent. Aujourd'hui, le mot trottin ne s'emploie que pour les jeunes ouvrières portant des cartons à chapeau, et le mot saute-ruisseau indique principalement les jeunes garçons employés par les notaires et les avoués pour véhiculer pédestrement leurs plis cachetés. Les termes courantin et trottin enlèvent toute poésie à une fonction peu reluisante, mais qui, auréolée des premières démarches de l'adolescence, peut prendre une allure prime-sautière. Et de prime-sautier à saute-ruisseau, il n'y a qu'un pas. Nous y revoilà donc. On pourrait croire qu'un saute-ruisseau, destiné à faire les courses dans le labyrinthe des rues d'une grande ville, doit obligatoirement connaître le nom de celle-ci, aussi bien qu'un chauffeur de taxi, que sa mémoire doit être infaillible et ses jambes promptes, son souffle puissant et ses bronches saines. Certains avanceront même que cette profession qui recrute ces gens au sortir de l'école primaire, gens sans vocation et sans métier d'avenir, pourrait être une pépinière de recordman de la marche, voire de la course à pied. J'ignore si Zatopek et Mimoun entrèrent aussi dans leur carrière glorieuse. Je n'ai aucun saute-ruisseau dans mes relations et aucun de mes amis, parmi lesquels sont quelques sportifs, n'a débuté ainsi dans la vie. Il est vrai que rares sont ceux parmi eux qui soient sortis de l'école primaire. Et tout vient de là. Sans école primaire, pas de primaire. Sans primaire, pas de saut de ruisseau. On voit mal un secondaire dans cet état. Le saut de ruisseau doit avoir 14 ans, 15 ans au plus. Faire un tel métier à 16 ans serait un déshonneur. À 18 ans, une perdition. Car le saut de ruisseau est guetté par un danger permanent. Ce danger est contenu dans son nom, très explicitement. Il s'agit du ruisseau. On sait ce que tomber dans le ruisseau veut dire. Que de fois ai-je entendu dans mon enfance cette exclamation désespérée « Elle est tombée dans le ruisseau !» Ou bien « Elle finira dans le ruisseau !» Une rivière coulée non loin de notre maison, rivière au débit si peu important qu'elle eût pu mériter l'appellation de ruisseau. Je pensais que toutes ces filles perdues auxquelles on faisait allusion tombaient dans cette rivière. L'odeur nauséabonde qui se dégageait des rives ne faisait que me fortifier dans cette idée. Comme on emploie surtout cette expression pour les femmes, sans doute plus malhabiles et sujettes au vertige, je n'eus qu'à demi-peur lorsque je fus placé comme saute-ruisseau dans cette bonne ville de Nantes, renommée pour ses philanthropes, ses corsaires et ses petits beurs. N'étais-je pas destiné, comme le nom de mon seul emploi l'indiquait, à sauter les ruisseaux ? Seuls les mauvais courantins tombent dans le piège. Le difficile de la profession et sa grandeur vient justement de ce que l'on doit côtoyer sans cesse ces fameux ruisseaux sans jamais faire de faux pas. Tout récemment débarqué de ma Vendée familiale, petit péquenot perdu dans l'immensité d'un port qui n'est point si grand qu'il me paraît alors, je ne connaissais rien de la ville lorsque je débutais. Les clochettes des tramways, les klaxons des voitures, le brouhaha de la foule, tout m'étonnait, m'intimidait, m'effrayait. C'était comme ma petite ville vendéenne, un jour de fête foraine ou de foire aux bestiaux. Une fête foraine agrandi à une dimension monstrueuse où la foule ne riait pas et où tous les manèges, au lieu de tourner gentiment, s'en allaient vers des buts précis. Où étaient-ils, mes petits copains de l'école des frères ? Eux aussi avaient commencé un métier. Menuisiers, peintres, mécaniciens, cultivateurs, tous étaient cependant restés au pays. Ma mère avait pour moi plus d'ambition. La Vendée ne lui paraissait pas convenir aux dons qu'elle m'accordait. Ce département agricole, sans grandes industries, réputé pour son caractère arriéré, ne lui semblait pas à la dimension de mes possibilités. Pourtant, notre famille n'en était jamais sortie. Depuis la date perdue dans la nuit des temps où elle s'y était installée et ne s'y sentait pas pour cela prisonnière. Mais ma mère avait son idée. C'était une femme de tête. Si je faisais la moindre objection, elle me répondait aussitôt « Toi, tu ne sais jamais ce que tu veux. T'es comme ton père. » Je savais pourtant très bien ce que je voulais. Mon ambition la plus chère eût été de continuer à ne rien faire. Alors ce travail de saute-ruisseau, Michel Ragon l'a eu, on va dire, à l'usure, puisque sa mère passait son temps à l'emmener avec elle d'un bureau de placement à l'autre. Et à chaque fois, elle faisait l'argumentation comment son fils, qui était exceptionnel, devait absolument trouver un travail dans l'administration, puisque c'était son but. Il devait rentrer dans un bureau et avoir une retraite au grand âge. Et donc, à force de faire tous les bureaux de placement, un jour, un bureau de placement lui a proposé ce travail de saute-ruisseau. Et ça, c'était à sa grande joie. Il allait enfin pouvoir. J'étais donc saute-ruisseau. Lorsque je disais que cette première de mes professions ne m'avait pas dépaysé, il faut attendre par là que l'idée de faire ce travail ne m'émut pas autre mesure. Mais lorsque je fus mis dans le bain, je m'aperçus vite que je ne savais pas nager. D'abord, je ne connaissais pas la ville. Lorsqu'on me disait « Va porter cette lettre chez M. Létiec, rue Saint-Clément », je prenais la lettre et je partais au hasard des rues. Mon travail principal constituait alors à demander mon chemin. À première vue, on peut croire que c'est tâche aisée, mais il n'en est rien. D'abord, la plupart des gens que je tentais d'accoster ne s'arrêtaient pas. Je mis longtemps à découvrir la raison de cette attitude. Un jour, que je m'étais vraiment égaré dans un quartier éloigné du centre de la ville et que je restais immobile au coin d'une rue, un passant que j'interpellais me jeta une pièce de 20 sous. Mais oui, c'était cela. Ils pensaient que je leur demandais la charité. Ils n'en étaient pas certains, mais plutôt que de s'en assurer, ils préféraient activer leur marche et regarder ailleurs d'un air absent. C'est alors que je m'enhardis et osais demander mon chemin aux agents de police. Eh ben, à ma grande surprise, ceux-ci me l'indiquèrent toujours gentiment. Aussi conservais-je de mon premier contact avec les serviteurs de l'ordre le souvenir d'une corporation remarquable par sa politesse et son amabilité. Pourquoi tant d'histoires, diront les petits malins. Il eût été plus simple d'acheter un plan de la ville. Oui, mais comment aurais-je su qu'il existait des plans de la ville et que ceux-ci se vendaient comme des petits pains au chocolat? Avais-je déjà acheté quelque chose tout seul? Avais-je de l'argent de poche? Je devais tout apprendre et nul ne me donnait des conseils. Dans cette ville, je ne connaissais personne hormis ma mère et ma mère ne savait pas grand-chose. Et là, il y a un épisode extraordinaire, on en a parlé avec Françoise, c'est qu'à force de se promener un jour, il doit amener une lettre dans un grand magasin. Il m'arrive souvent d'aller dans les grands magasins pour le plaisir de regarder les vendeuses, oui, ça. Et j'ai toujours eu un peu peur des messieurs en habit. Mais c'est là que je vis mon premier ascenseur. J'avais vu dans mon enfance des lions, des tigres, des éléphants, des nègres, des chinois. Il en passait souvent des cirques dans notre petite ville. J'avais vu des avions, de loin, des trains, des automobiles, des tanks, des canons. Mais je n'avais jamais vu ni ascenseur, ni téléphone, ni salle de bain, ni poste de radio, ni chauffage central, ni machine à laver. Non pas que toutes ces choses ne fussent inventées, je suis né en 1924, mais je ne vois pas très bien ce que l'on pourrait faire d'un ascenseur à la campagne. Et si la plupart de mes cousins savent aujourd'hui ce que c'est qu'un téléphone, un poste de radio, je suis bien sûr qu'aucun n'a encore vu une salle de bain, ni un chauffage central, ni une machine à laver. Et un jour, en montant de nombreux plis par l'escalier qui conduisait au bureau situé au cinquième étage du magasin, j'avais pas manqué d'être intrigué par cette curieuse cage dans laquelle se tenait un homme en uniforme d'aviateur brésilien. Parfois, je voyais des gens entrer dans la cage, l'aviateur brésilien s'enfermait avec eux et le tout disparaissait, mystérieusement. Ça ressemblait à un manège de foire d'un genre nouveau. Je me promettais de monter dedans lorsque j'aurais un peu d'argent. Et puis un jour, l'aviateur brésilien qui avait remarqué mes allées et venues m'interpella. « Où vas-tu, petit ? Ben, porter une lettre au cinquième. C'est pour maigrir que tu prends l'ascenseur ? Viens avec moi. » Et il referma la porte sur nous, appuya sur un levier et nous montâmes jusqu'au cinquième, d'un seul élan, comme un ballon. Arrivé à destination, je me sentis tout honteux. J'avais l'impression d'avoir participé à un jeu pendant mes heures de travail. Je n'osais plus sortir de la cage dans laquelle je m'étais imprudemment laissé enfermer. « Ben alors, me dit le liftier, t'attends le dégel ?»« Monsieur, je n'ai pas assez d'argent pour vous payer aujourd'hui, balbutiai-je. Mais vous me connaissez, hein ? Je reviens tous les jours. » Le liftier, que j'identifiais déjà moins un aviateur brésilien, se contorsionna en riant à perdre haleine. « Mais tu sors de ton trou, mon gars ! Si les clients du magasin devaient payer pour monter aux étages, on verrait plus un chat !» Alerté par le gros rire du liftier, un surveillant arriva vers nous, l'air sévère. « Que se passe-t-il, Jules ? Vous ne croyez pas que l'on vous appelle au rez-de-chaussée ? Vous voyez ? Allez, vous retombez en enfance ?» Mon prestigieux aviateur brésilien prit alors l'allure d'un vague soldat de deuxième classe devant un caporal-chef. Il salua précipitamment et disparut dans sa cage. Et alors, Françoise, on a regardé ensemble un livre de photos où les photos sont parties à l'exposition de La Roche, mais le livre est toujours là. Et il y a une photo où on voit la ville de Nantes détruite par les bombardements et on voit la photo du magasin. Et à côté, il y a écrit à la main par Michel le magasin dans lequel il y a l'ascenseur découvert par le Soute-Ruisseau en 1943, et il y a en exergue, là où j'ai vu mon premier ascenseur. Symboliquement, il y a certainement quelque chose à comprendre de cet ascenseur et cette fascination. En tout cas, après ça, il se passe plein de choses, voilà, plus ou moins intéressantes, on ne peut pas tout lire de toute façon, mais il y a quand même un moment très beau, donc là, on imagine que c'est l'été, après l'automne, et puis il y a l'hiver qui tombe sur Nantes. Et là, je vous relis encore un bout. Ça va, hein ? Ça va ? Oui, oui. Ça vous change un peu, ça. Ça vous fait plonger dans la matière, quoi. Hein ? Enfin, la matière, je veux dire par là, la matière, sa matière d'écriture. Hein. J'ai vraiment compris l'hiver... ce que le terme de saute-ruisseau veut dire. L'emploi de bureau était, dans l'esprit de ma mère, le métier idéal, qui vous met à l'abri des intempéries. Mais elle oubliait qu'un maçon ou un charpentier ne travaille pas lorsqu'il pleut, qu'un mécanicien est à l'abri dans un garage, qu'un ouvrier ne sort de l'usine que pour rentrer chez lui. Mon emploi de bureau me jetait dehors par tous les temps. J'aurais eu mauvaise grâce de m'en plaindre par temps chaud. Il est plus agréable de déambuler dans les rues lorsqu'il fait beau que de rester à moisir dans un local sombre et poussiéreux. Mais le beau fixe est si rare sur les baromètres nantais. Le qualificatif de climat tempéré, appliqué à ce pays si mensonger, la pluie si tenace, si fréquente, si pénétrante, que j'étais transformé en éponge les trois quarts du temps. Et que de mes aventures, cela ne m'attirerait-il pas ? Croyez-vous que l'on soit bien reçu dans un magasin où on en arrive dégoulinant comme une gargouille de cathédrale ? La pluie vous fait perdre forme humaine, ankylose vos membres, contracte votre visage, transforme vos cheveux en algues marines, votre nez en gouttière, vos chaussures en passoires. On s'habitue à la pluie comme on s'habitue à tout. Mais peu à peu, on glisse du genre humain au genre invertébré. D'étape en étape, on ressemble à un pachyderme, puis à un poisson, puis à un mollusque, et enfin à un infusoire. Cette sensation d'aller à reculons vers les origines de l'espèce est à la fois humiliante et douloureuse. Le clapotis des brodequins sur un parquet ciré n'a rien de mélodieux et il suffit qu'une maîtresse de maison l'entende pour qu'elle sorte horrifiée de ses appartements. Si elle vous aperçoit, ruisselant d'eau, formant sur vos pas une petite mare qui s'agrandit, si vous avez le malheur de vous arrêter, il se peut alors qu'elle s'évanouisse. Mais dans la plupart des cas, croyez-en mon expérience, elle pointe vers vous un doigt vengeur de tragédienne classique et demande à la bonne qui vous a ouvert « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, c'est vous-même, saute-ruisseau, devenu saule-pleureur, objet informe et repoussant. La bonne bafouille donne à sa maîtresse le pli que vous avez apporté et s'entend dire « Mais voyons, ma fille, pourquoi ne l'avez-vous pas reçu à l'office ?» La malheureuse domestique m'a reçu où j'ai sonné, car j'ignorais que deux choses j'ignorais pas, qu'il y eut un escalier de service pour les gens de mon espèce et un escalier normal pour les gens normaux. Maintenant, c'est le contraire. invité chez certaines personnes, il m'arrive par la force de l'habitude d'emprunter l'escalier de service et d'aboutir à la cuisine alors qu'on m'attend au salon. Et ce sont les domestiques qui, à leur tour, se scandalisent. Bon, après, ça continue, le saute-ruisseau. Et puis, à un moment, la situation évolue. Sa mère devient concierge dans un immeuble. Et là, il y a une seule pièce. Et dans cette pièce, il y a aussi deux sortes de placards. Et là, il y a un petit bout de texte qui me semble vraiment intéressant à entendre par rapport à des choses que vous avez évoquées. J'en dis pas plus. Ça fait penser aussi un peu à Virginia Woolf, A Room for Oneself, enfin sur cette la chambre, une chambre pour soi, et on sent qu'il y a ce désir très très fort, pas seulement du livre, mais aussi d'avoir un espace pour soi. J'étais heureux de pouvoir installer un de ces placards à ma guise. Je n'avais jamais eu encore de chambre personnelle. Mon plaisir à l'idée d'en posséder une était si grand que je ne voyais pas la laideur de ce réduit aux murs lézardés, agrémentés de larges taches de salpêtre. J'y installais d'abord l'électricité, une bougie. Puis je fis le vide dans cette pièce qui contenait encore un bric-à-brac invraisemblable de vieux tuyaux rouillés, de planches vermoulues, de paille, de boîtes de conserve vides, d'ordures variées, allant des épluchures aux dégueulis de chat. Quand le sol fut à peu près net, je pus glisser un lit dans le réduit, mettre mes livres sur une étagère, pointer quelques illustrations au mur. Un palais ne m'eût pas donné plus d'émerveillement. Malheureusement, une nuit, un rat me mordit l'oreille, pendant mon sommeil. Lorsque la propriétaire apprit cet incident, elle interdit à ma mère de nous servir de ce débarras, cette chambre comme chambre à coucher. Et donc là, il est obligé de retourner dans la pièce centrale avec sa mère. Et puis, sa mère reprend cette obsession de vouloir absolument le placer. Et elle trouve un travail dans un bureau et qui est un peu à l'abri. Et là, il devient soi-disant être comptable. En fait, il ne fait rien du tout. Le comptable ne veut rien lui laisser faire. C'est là où, à un moment, on sent qu'il voit que le comptable fait marcher une machine. C'est pour ça que vous évoquiez s'il avait lui-même fait des livres. Mais il a vu ce comptable manipuler une machine. Il avait très envie de pouvoir le faire, mais l'autre ne le laissait jamais toucher à la machine. Et donc, il s'est ennuyé ferme à cette place. Et donc, à un moment, il s'est dit « il ne faut plus que j'écoute ma mère. Il faut que je trouve un travail moi-même. » Et là, il dit que il est un peu comme tous les garçons de son âge, fasciné par la mécanique, et réussit à se faire embaucher comme aide mécanicien dans un garage. Et alors le garage, au fond, c'est pas un garage de voitures, il y a surtout des vélos. Alors il apprend à réparer les vélos, et surtout il fait du vélo. Et il se dit, ça c'est quand même extraordinaire de faire du vélo, surtout quand il n'est pas à moi, mais ça me donne une liberté extraordinaire. Il se promène dans les rues de Nantes, qu'il connaissait comme saute-ruisseau, à vélo. Et il attend, il se dit, bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Et puis un jour, son patron n'est pas là, et arrive un homme avec une voiture, et désemparé en lui disant, est-ce que c'est possible de m'aider à réparer ? Je suis très pressé, ma voiture est en panne. Et là, comme le patron n'est pas là, Michel s'enhardit en disant, ben oui, on va regarder ça. Et il ouvre le capot et je vous lis pas tout, hein, mais il connaît rien du tout. Il a aucune idée de ce qu'il y a sous le capot. Et donc, il commence à démonter des pièces. Il les démonte assez systématiquement. Il les pose au sol, les unes à côté des autres. Et donc, le propriétaire de la voiture le regarde faire comme ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je démonte. Non, mais je le vois bien. Mais pourquoi démontes-tu ça ? Ouh ! Moi, j'étais pas fixé, hein, ça ou autre chose. Et dis donc, j'ai l'impression que tu ne t'y connais pas beaucoup en mécanique. Et là, j'entrevoyais l'étendue du désastre. Jamais je n'arriverai à découvrir l'avarie du moteur. Jamais je ne pourrai remettre les pièces à leur place. Il y a des moments dans la vie où l'on voudrait tout effacer et recommencer l'opération. Mais on ne peut pas faire machine arrière. Tout le drame est là. L'angoisse vous serre la gorge, le sang vous monte à la tête. C'est la grande peur qui fait perdre les moyens au mieux équilibré. Et là, heureusement, le patron arrive. Et le patron regarde ce que fait Michel, regarde la voiture, regarde le conducteur, et il lui dit « Vous allez loin ?» Saint-Nazaire. Oh, impossible dans cet état. Laissez-moi votre voiture pendant deux petites heures. Ah non, mais je suis très pressé, dit le client. Mais ne vous inquiétez pas. Laissez-moi deux heures. À moins que vous préfériez tomber en panne sur la route de Saint-Nazaire. Bon, d'accord, deux heures, mais pas plus. Et hop, il disparaît. Le client parti, je regardais mon patron manipuler les pièces, désireux de m'instruire. Qu'est-ce qu'il y a de cassé ? Pauvre idiot ! Si je n'étais pas arrivé à temps, tu saccageais complètement la bagnole. Mais pourtant, il n'y avait rien à faire. Juste un tour de clé anglaise à donner, ici, là. Ah ! Écoute maintenant comment elle ronfle. Comme je restais bouche bée, mon patron se mit à rire. Tu te demandes pourquoi j'ai dit au client de repasser dans deux heures ? C'est bien simple, petitot. Si j'avais réparé devant lui, je ne pouvais pas décemment lui faire payer un tour de clé anglaise. Et puis, il aurait été vexé que ce soit si simple. Mets-toi dans le crâne qu'un mécano, c'est comme un médecin. S'il veut paraître sérieux aux yeux de ses clients, il faut qu'il leur trouve une bonne maladie. Bon, ça, c'est son apprentissage d'aide mécanicien. Ça ne dure pas très longtemps. Sa mère étant toujours désespérée, finalement, grâce à sa tante, il trouve un travail qui, là, est très important, on sent dans la vie de Michel Ragon, c'est qu'il devient emballeur. Alors, emballeur. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes de citations qui vont nous intéresser. Donc, il y a où je vous passe tout ça, mais voilà. Ah oui. L'état d'emballeur, il est à recommander aux philosophes. Physiquement peu fatigant, ne demandant aucun effort intellectuel, il convient également aux âmes rêveuses, aux penseurs, aux poètes et aux artistes qui désirent ajouter aux revenus de leur art un traitement mensuel peu élevé, mais qui ne descend cependant jamais au-dessous du minimum vital. Le salaire de l'emballeur est insuffisant pour qui n'aurait que celui-ci comme moyen de subsistance, mais les âmes rêveuses et les penseurs désintéressés peuvent parfaitement bien s'en accommoder. Les philosophes penseront que Spinoza polissait des morceaux de verre et que Jacob Boehme travaillait le cuir. Mais ces deux métiers demandent une attention et un apprentissage que l'état d'emballeur ne nécessite pas. Il est également très préférable à un poste universitaire qui peut conduire le philosophe au didactisme ou au rabâchage. Pendant tous les cours de ma carrière d'emballeur, je n'ai jamais eu comme collègue ni philosophe, ni artiste, ni poète. Mais je peux dire que mes compagnons de travail eussent mieux fait d'employer leurs dons à d'autres travaux plus accordés à leur tempérament et laisser leur place à tant de pauvres intellectuels sans ressources. Bon, ensuite, il parle de tous ses collègues et ils font des blagues, ils s'amusent. On sent qu'il est très heureux avec les gens avec qui il emballe. Et là, alors une petite blague, donc ils se retrouvent tous. Je vous passe le contenu du café, parce qu'il y a une description du café qui est formidable. Ça montre qu'il y avait du café au début, mais pendant la guerre, il n'y avait plus de café. Tout était transformé. À la fin, c'était une sorte d'orge maltée qui avait plus un goût de camomille que de café, dit-il. Et donc, ils se retrouvent pour ensacher les paquets de 250 grammes que nous faisions à la main et à la chaîne. Et là, nous étions tous fraternellement réunis. Nous échangions des calembours et des gaudrioles. Malgré la diversité des âges, nous nous entendions très bien et nous nous amusions comme des gamins. L'une de mes plaisanteries favorites était d'attacher avec une ficelle peu visible l'une des branches du fléau de la balance. Il fallait alors voir la tête de Louis qui ajoutait du café dans le sac jusqu'à ce que celui-ci débordât, se demandant par quel miracle le mélange était devenu souvent, soudain, extrêmement, exagérément volumineux. Ou bien je mettais un poids de 25 kilos dans un sac de 50 que devait livrer mon oncle à son oncle. Il le déteste, son oncle, s'il avait pu le faire souffrir. Lorsque celui-ci arrivait pour le soulever de terre, pour le mettre dans sa voiture, il croyait brusquement avoir perdu toute sa force et pâlissait. Ça nous amusait. Et nous en avions ri encore pendant très longtemps, même en nous rappelant cette histoire. Puis ça dure. Et là, ah oui, ça c'est important. C'est grâce à ce travail enfantin que j'ai pu découvrir d'autres horizons. Je ne gagnais pas cher, mais je ne buvais pas, ne fumais pas, et mes petites amies étaient peu exigeantes. Les quelques francs que m'abandonnait ma mère servaient à l'achat de livres. J'ai souvent entendu d'autres ouvriers dire « On lirait bien, mais les livres sont trop chers. » Mauvaise excuse. On ne m'a jamais rien fait payer, ou peu, aux bibliothèques publiques, municipales ou paroissiales. Et toute la littérature classique, d'Homère à Baudelaire, se vend en brochure à Thiers, à Chette et Larousse, à un prix qui ne dépasse jamais celui de la chopine de Muscadet. Que l'on préfère le Muscadet à Molière, et les courses derrière moto, et les courses derrière moto à la philosophie, ça c'est une autre histoire. Loin de moi l'idée de vouloir imposer mes goûts et mes couleurs à tout le monde. Oui ? Oh là là. Bon, alors... tu vois, Françoise. Mais on a calculé, mais en portée dans le... Tu vois, on a calculé à froid. Mais à chaud, Michel prend deux fois plus de place. Alors... Bon, il y a quand même une chose qui me semble juste importante, ce sera peut-être le dernier extrait, c'est que dans toutes les aventures qui lui arrivent, finalement, il réussit à avoir un poste d'administration. Et là, c'est quand même... Je ne sais pas si Michel, tu es d'accord, mais j'aimerais qu'on lise, qu'on entende juste sa première galerie. Bon, il y a un moment magnifique où il a l'impression de voler la musique aux riches quand il entend le piano. Ça, c'est un hommage à Françoise. Mais, voilà. Je me permets un dernier texte, et puis après, j'arrête. Mais ça nous lance Michel dans le monde de l'art. Parce que quand même, le passage entre ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le garçon de 14 ans saute ruisseau directement de la Vendée à l'art contemporain, c'est quand même un grand saut. Hein ? Non, mais je sais qu'on a compris, vous savez, les conteurs, on a tendance à l'oralité, on répète. C'est la répétition qui fait que ça s'inscrit dans le psychisme de ceux qui écoutent. Alors, donc il y a ce bureau dans lequel il a commencé à exposer des choses. Et là, on peut voir... Alors, quant à voir le début de mon goût pour la peinture abstraite, ceci pourrait être considéré comme une allusion désobligeante. Il faut mettre un peu de fantaisie dans sa vie lorsqu'on est fonctionnaire. Les cocottes et les ronds de cuir sont d'un autre âge, quoi qu'en disent les dessins humoristiques. Mon musée fut célèbre et certains employés en parlent encore, car ils se souvinrent longtemps après que ma collection fut dispersée. J'avais vidé une armoire de ses dossiers qui ne servaient à rien et je l'avais convertie en un musée où le vase de Soissons voisinait avec le premier slip du premier homme, où l'une des cornes de la femme de Lot figurait près du seul vêtement de Friné devant l'aéropage. De telles merveilles attiraient tous mes collègues, à l'exception de quelques neurasthéniques. Même les chefs de service vinrent visiter mon musée. Le premier slip du premier homme était évidemment une feuille de vigne, le vase de Soissons un pot de chambre, l'une des cornes de la femme de Lot, l'appendice frontal d'un bovidé, et le seul vêtement de Priné devant l'aéropage, une bague. Ceux qui n'auraient pas une culture suffisante pour comprendre ces fines plaisanteries pourront consulter avec profit la partie historique du Petit Larousse illustré. Et ça fait pas partie de moi, hein, donc c'est juste un intermède entre moi et le prochain. Donc ça, c'est aussi de l'époque cosmopolite, donc les premiers poèmes de Michel. Et je voulais juste le passage que Françoise, en ce moment, affecte personnellement. Elle me l'a dit comme ça, elle m'en a dit une partie de mémoire. Et ça pose la question existentielle et ce désir irraisonné d'aller toujours plus loin, sur une terre ronde, en me laissant un demi-cent de paysan qui a le mal du pays. J'ai le mal du pays. Mais quel est ce pays ? Je n'aime que les carrefours où les races se mélangent. Je n'aime que les ports et les gares et le Paris cosmopolite de Saint-Germain-des-Prés. J'ai horreur des foyers immobiles et je pleure comme un enfant perdu, lorsque je m'arrête quelque part. J'ai le mal du pays, mais de quel pays ?